les Street John au couloir numéro 2. Allez, les c'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Pepsi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du Pepsi Apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.
Et salut à tous, bienvenue dans la 99e émission.
Ça approche la centième.
Une émission où on n'a absolument rien préparé, mais on va voir ça d'ici. On a encore 7 jours hein, pour peut-être rien faire. On verra ça. En tout cas, aujourd'hui, une petite révolution avec un champion fébrile, le Lyonnais du jour, qui depuis ses 4 points marqués dans ce classement des pronostiqueurs est à la peine. Patrick Bianconi, salut.
Salut, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que ça se rapproche, hein, je sens sur ma nuque le souffle de notre ami Laurent.
Et ouais, c'est le FC Nantes de cette émission. Après une saison 2016-2017 catastrophique, il vise maintenant le haut du classement. Un nouveau point ce week-end après avoir trouvé le résultat de Monaco-Lyon. Avec 4 points, il reprend la tête coexéquo avec Patrick, Laurent, Julien, salut.
Oui, bonjour tout le monde.
Bravo.
Merci.
Je n'ai que ça à te dire.
Bah, il fallait le trouver, hein, ce 3-2.
Ah, difficile. Hein.
Très difficile, mais voilà.
Ouais.
C'est la difficulté quand on reconnaît les grands joueurs.
C'est ça, absolument. Allez, on va passer au naze. Julien Gall, salut.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bah oui, toujours 0 points.
Ouais,
ravi d'être l'Olympique de Marseille version Ligue des Champions il y a quelques saisons.
Ouais, très bien. Allez, bah, ça s'est balancé. Salut Aurélien Lacaze.
Bonjour à tous.
Ouais,
moi, j'ai un point quand même.
Ah oui, t'as un point,
oui,
toi.
Attends.
Mais on sait, qu'est-ce que c'est ce point?
Je me désolidarise complètement de ce que tu viens de dire.
Ludo, tu veux que je te présente pour toi aussi tes 0 points?
Ouais, mais moi, on le sait, hein, que je suis nul. D'où t'as un point, toi? C'est quoi cette histoire? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce point marqué?
Tu
te souviens, Patrick?
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Il y a 2 semaines, là.
Il y a 15 jours, juste.
On avait parié sur de l'équitation ou un truc comme ça?
Du poney.
Match nul, ouais.
Il me semble que c'était un match nul,
ouais. Ok. Bon, alors, ça n'a pas été un bon week-end pour le sport lausérien. Alors, tout d'abord, bien sûr, on commence par le volley. Le match au sommet, le MVL qui recevait Martigues et qui ressort de ce match avec une défaite 3-7 à 2. Alors avant d'évoquer le classement, j'aimerais que l'on parle un peu du match. Patrick, toi qui y étais ?
Oui, donc j'étais dans les tribunes et j'ai vu quand même une équipe assez abattue au coup de sifflet final. C'est vrai que tu mènes 2-1, bon, puis tu perds le second set alors que tu as deux balles de set, mais tu le perds quand même 26-24. Et puis bon, c'est inexplicablement un quatrième set et un cinquième set où eh ben, tu n'es pas parvenu à avoir ce petit plus mental. Moi, j'analyse ça en premier lieu comme un mental qui me paraît pas au niveau de celui de la saison précédente. Pour moi, c'est la première raison du fait que l'année dernière, on attaquait les playoffs avec quasiment le maximum de points. Et alors que là, on va attaquer les playoffs en ayant grillé quasiment tous nos jokers.
Alors, plus étonnant, Patrick, on en parlait avant que cette émission commence. T'as pas été impressionné par Martigues, ce club qui n'a perdu qu'un seul match,
ouais,
pour l'instant?
Alors, je vais peut-être choquer certains spécialistes, certainement notre ami Christian Martier, qui est un fidèle auditeur, mais qui, tout au long du match, a dit que, qu'on assistait à du grand volley, à un match de Ligue B, entre deux superbes équipes. Peut-être que je vais le choquer ou le décevoir, mais pour moi, je n'ai pas vu un gros match. Je le dis comme je le pense. Je peux comparer, par exemple, la saison dernière avec les oppositions qu'on a eues face à Avignon, et j'ai trouvé que les chocs contre Avignon étaient d'excellentes factures, en tout cas de plus grandes factures que ce que j'ai pu voir. Ce match contre Martigues, une équipe de Martigues qui ne m'a pas impressionné, loin de là. Et j'ai trouvé beaucoup de fibrillité du côté des deux équipes. On sentait que sûr que c'était un match capital au niveau des points, mais je n'ai pas vu de grandes envolées au cours de ce match.
Julien.
Oui, alors moi je suis pas resté tout le match, mais c'est vrai que sur le mis à part peut-être le deuxième set où il y avait un petit peu de pression, Il me semble que dans ce set, Mand a deux balles de set pour mener 2-0.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et finalement, ils le perdent 28-26. Je pense que c'est un peu le tournant du match quelque part, même si derrière le troisième set, ils le gagnent largement. Après, ils se sont complètement écroulés. Et je rejoins Patrick un peu sur l'aspect mental de l'équipe qui, c'est vrai, a complètement lâché, quoi. Et c'est vrai que c'est une défaite qui fait plus que mal d'un point de vue comptable en vue des playoffs.
Alors Laurent, toi qui avais 0 points l'an dernier au classement des pronostiqueurs et qui cette année, alors que le championnat n'est pas fini, t'es déjà à 4 points, quel conseil tu peux donner pour le mental ? Non, je déconne. Laurent, ouais, c'est compliqué là, hein, quand on voit le classement des playoffs. Ah, tiens, tu peux nous le donner, Auré, le classement des playoffs qui
alors,
va débuter dans 15 jours.
Le classement des playoffs, donc définitif, puisque la saison régulière est terminée.
Oui, tu as donné le lien, définitif, ouais.
Voilà, donc premier Iliac avec 16 points, deuxième Martigues 14 points, troisième Fréjus 10 points. Quatrième, le MVL, 9 points. Cinquième, Aluin, avec 9 points également. Puis ensuite, on a sixième, Épinal, 7 points. Septième, le CNVB, 3 points. Et huitième, Amiens, 4 points.
Non, c'est Amiens qui est devant. Amiens est septième, comme tu l'as dit. Amiens a 4 points. Donc Amiens, bon, c'est anecdotique. Amiens est septième et le CNVB est huitième.
Laurent, sur ce classement compliqué, hein.
Ah ben, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, cependant, l'équipe n'est pas larguée non plus. Elle a quand même 5 points de retard sur Martigues, le deuxième. Patrick avait donné une petite info, ou une très grosse info la semaine dernière.
J'en ai une autre, mais je te laisse finir.
Qui disait qu'avec la refonte du championnat prévue la saison prochaine, alors c'est encore que dans les bruits de couloir, hein, c'est pas officiel, les 4 premières équipes monteraient en deuxième division. En y incluant bien sûr le CNVB, donc ça veut dire qu'il faut compter les 3 premières équipes. On est quatrième, on est comme point de retard sur Fréjus, donc si c'est avéré qu'il y ait cette refonte, tout est encore jouable.
Alors l'info qui change
voilà.
Tout.
Oui, alors l'info qui change tout, c'est par rapport donc à ce que j'ai dit lundi dernier. Donc il y a une nouvelle étape qui a été franchie, c'est-à-dire que la semaine dernière jeudi, tous les clubs de Ligue A se sont réunis. Et tous les clubs de Ligue A, à l'unanimité, donc les 12 clubs qui composent la Ligue A cette année, ont voté pour passer à 14 la saison prochaine. Donc à ce niveau-là, la décision a été prise. Donc maintenant, il y a la Ligue qui doit se prononcer, et la Fédération aussi. Mais en tout cas, une autre étape supplémentaire a été franchie. Tous les clubs de Ligue A sont favorables à un retour à 14 de ce championnat la saison prochaine.
Ce qui signifie...
Et donc,
attends, on va laisser Patrick nous expliquer pour nos auditeurs.
Ce qui signifie que la Ligue B serait actuellement plus que 8 clubs, donc ce qui laisse la porte ouverte totalement à 4 montées d'élite en Ligue B pour arriver à 12. Parce que bon, cette année la Ligue B est à 10, mais on sait très bien que s'il y avait eu 2 clubs en règle administrativement, la Ligue B aurait débuté à 12 clubs. Parce que bon, la jauge quand même minimale de la Ligue B, c'est 12. Voilà, exceptionnellement cette année c'est 10. On sait toutes les raisons qui ont poussé, on n'a pas pu monter, et puis des clubs ont été rétrogradés, mais sinon la Ligue B c'est à 12. Donc c'est pour ça, en passant la Ligue A à 14, il n'y aurait plus que 8 clubs en Ligue B, donc 4 montées, 3 plus le CNVB en vue de fameux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc on se dirige tout doucement, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, hein, je le répète pour nos auditeurs, mais une étape de plus a été franchie avec cette décision des clubs de Ligue 1.
Laurent, tu voulais dire ?
Non, justement, c'était là où je voulais rebondir, combien il y aurait d'équipes en Ligue B du coup, mais Patrick a donné l'info.
Oui, parce que là, récupérer 5 points sur Martigues...
C'est vrai que ça paraît compliqué, les deux premières places. Bon, tiens, on a 7 points de retard sur Saint-Jean-d'Illac, on a 5 points de retard sur Martigues suite à cette défaite 3-2. Alors bon, on sait comment ça va fonctionner maintenant cette deuxième phase. On va jouer les 4 équipes de l'autre côté, donc ça fait 8 matchs. Il y a quand même 24 points virtuel à prendre. Bon, mettons-nous à la place de Saint-Jean-d'Illac. Saint-Jean-d'Illac, bon, ils ont affronté pour l'instant que des équipes qui n'ont pas coché la fameuse case, donc qui monteront pas. Bon, maintenant, ils vont se farcir deux fois Martigues, ils vont se farcir deux fois Fréjus,
et nous.
Ils vont se farcir deux fois Mende. Donc, ils vont
et deux fois le CNVB.
Voilà, et deux fois le CNVB. Donc, ils ont au moins 6 gros matchs contre des équipes qui visent la montée. Bon, Martigues, Fréjus et Mende. Bon, que va faire Illac? Comment ils vont se comporter? C'est quand même un point d'interrogation. Et bon, nous, par exemple, c'est vrai qu'on va jouer contre Aluin. Bon, le prochain match, le premier match des playoffs, c'est Mende-Aluin, ça sera le 24 février. Bon, mais Alouin est certes même point, même nombre de points que nous, mais Alouin ne peut pas monter, puisque Alouin, administrativement, est dans la même situation que nous l'année dernière. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc, bon,
ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas défendre leur chance.
Bien sûr, bien sûr. Mais bon, quand même, à mon avis, c'est plus compliqué pour Saint-Jean-d'Illac de jouer Martigues, Mende et Fréjus que nous de jouer, par exemple, Amiens, Épinal et Alouin, qui sont des clubs qui ils sont sauvés, puisqu'ils sont en play-off, ils savent qu'ils seront en élite l'année prochaine, ils savent qu'ils n'ont aucun espoir d'accéder à la Ligue B.
Sachant que le CNVB peut aussi faire des surprises dans ses play-offs, comme on l'a vu contre Martigues.
Tout à fait.
Ouais, Julien,
pour rebondir sur quelque chose que dit Patrick, moi j'ai vu que le prochain match de play-off, c'était Épinal.
Alors, pas, que... je pense pas, parce qu'on finit nous troisième. On finit troisième.
C'est contre le deuxième de la poule.
Voilà.
Donc le deuxième, il y a marqué Épinal sur le classement de la Ligue.
Alors si Épinal est, si Épinal est second.
Parce qu'ils ont égalité de points, 29.
Ouais.
Ils ont tous les deux 29 points et pour l'instant, il y a marqué Épinal qui est deuxième.
Alors c'est ça, parce que c'est pas les points, c'est pas les points en play-off qui comptent, là, tu as raison.
C'est les points
globaux donc de la première phase. Donc si Épinal. Donc on reçoit Épinal le premier match.
Le 24 février.
24, c'est ça.
Ok.
Donc le 24. On passe devant Fréjus. Puisque Fréjus va jouer contre.
Je l'ai pas là.
Mais contre Alouin, du coup.
J'ai noté contre Alouin. Mais ils reçoivent. Ils reçoivent aussi. Puisque toutes les équipes de la poule B reçoivent ceux de la poule A lors de la première journée.
Ça croise, ouais.
Ouais.
Moi, je voulais rebondir effectivement sur ce que disait aussi Patrick, c'est qu'on va rencontrer que les équipes de l'autre poule.
Oui.
Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de confrontation directe face à Martigues, face à Fréjus. C'est des équipes à rattraper et pourtant on n'aura pas de confrontation directe face à elles. Donc ça peut être quand même aussi très compliqué de grappiller des.
T'as plus d'essai entre tes mains. Là, il faut faire le mieux possible en espérant que les autres perdent.
Il faut gagner tous ces matchs et espérer que Illiac ou Alouin, etc., fassent des coups contre Martigues ou contre Fréjus. Donc c'est sûr que t'as plus ton destin entre les mains, ouais.
Pour résumer, il faut pas que l'équipe baisse les bras malgré ces quatre défaites contre Martigues et Fréjus.
Ouais, en plus c'est difficile à contrer quand tu baisses les bras.
Ouais, c'est ça.
Non mais quand
moi je les encourage vivement à se remobiliser et à repartir de l'avant.
Non mais ce prochain match contre Martigues, c'est vrai que c'est il y a quand même une grosse part de frustration parce que le Brésilien par exemple Ninao a fait un match magnifique au centre. Bon, il y avait d'autres Brésiliens en face à Martigues, donc certainement qu'il était motivé de se confronter à des compatriotes. Et il a fait un match magistral, mais vraiment excellent. Paul Cooper aussi, on avait l'impression qu'il cherchait ses marques depuis le début de la saison. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait son meilleur match de l'année samedi. Mais il faut aussi reconnaître que les deux plus gros pourvoyeurs en points. Bon, mais à mon avis, ils sont passés totalement à côté du match. Loïc Alphonse, qui a fait pourtant un début de saison et une belle saison depuis le coup d'envoi, est complètement passé à travers de ce match contre Martigues. Et que dire aussi de Carlos Anthony, qu'on reconnaît plus par rapport à celui de l'année dernière. Alors c'est vrai qu'il a eu cette grave blessure à la cheville. Et on sent que, il est pas encore revenu à 100%. Mais par exemple, on gagne le premier set, il fait 0 point, quoi. Carlos Anthony, qui fait 0 point dans un set, je pense que c'est pas arrivé, souvent. Et donc après, dans les autres sets, il a été vraiment aussi en dedans. Et c'est compliqué de gagner un match quand ton pointu et ton réceptionneur attaquant, celui qui marque le plus de points, sont en dedans. Hein. Martigues, ce qu'on fait les points, c'est le pointu. Il y avait un gars de Lettonie gaucher, il a été le meilleur de son équipe. Et Mitrovic aussi, qui joue réceptionneur attaquant pointu, il a fait énormément de points. Donc quand tu fais le différentiel entre ces deux par rapport aux deux demandes, l'écart est énorme. Alors il est compensé par nos centraux qui ont archi dominé Mousseguet aussi et le Brésilien, ils ont archi dominé les deux centraux de Martigues. Mais bon, au final, le volet, c'est vrai que c'est souvent le pointu qui fait la différence.
Mmh. Ok, donc
la semaine... Ludo qui jouait que du pointu quand
exactement.
Au foot.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la semaine prochaine, dernier match où il y a trêve pendant 15
jours. Non, il y a deux week-ends de trêve.
Deux week-ends de trêve.
Ouais,
donc c'est pas dans 15 jours les playoffs, c'est dans 3 semaines.
Il y a la fameuse Coupe de France. Bon, où on a perdu contre Fréjus, et d'ailleurs
c'est mieux, ça nous permettra de nous reposer.
Voilà, Fréjus va retrouver Martigues, puisque
ils sont tombés contre Martigues.
Nous on avait organisé les quarts et demi oui. À domicile. Donc là, c'est Martigues qui organise un des deux quarts, puisqu'il y a bien sûr deux pôles comme nous c'était. Et donc dans un pôle, ben, il y a Martigues, Iac, je crois, oui. Et Fréjus. Et donc voilà. Et le deuxième, et... les deuxièmes, les quatre autres équipes jouent à Conflans, qu'on avait battu en finale. Et Conflans qui est toujours qualifié.
Voilà. Et du coup, ça se joue, intéressant. Ça se joue ce week-end. Ces équipes jouent. C'est ce week-end.
Oui. Ça va permettre à IAC de voir un peu le niveau des deux équipes surtout.
Exactement.
Oui, mais enfin, ils vont perdre des plumes aussi, se fatiguer, là où nos joueurs devraient être au repos.
Oui, c'est sûr, oui, totalement. Non, mais c'est bien qu'ils ne nous connaissent pas, IAC, enfin, ils nous connaissent un peu, mais bon, vaut mieux qu'ils travaillent sur le jeu de Martigues et de Fréjus et que nous, on arrive un peu cachés. Oui. En pré-national, l'équipe réserve va s'imposer à Roubia 3-7 à 0 et reste au contact de Gignac et 7 le MVL qui est toujours 3ème à 1 point du second et du premier, mais avec un match de plus que le premier qui est Gignac.
Et surtout 7 qui a 2 matchs de moins.
Ouais, et 7 le deuxième club de 7. Football, l'AFL tombe contre sa bête noire, défaite de but 1 contre Alès, but de De Freitas à la 6e contre des buts à la 5e et 76e de cette équipe d'Alès. On en avait parlé un peu avec le coach. Alors c'est dommage parce que dans le même temps, Toulouse et Canet se sont neutralisés, oui. Nîmes a fait match nul contre Fabregue et Montpellier a fait match nul contre Castanet, donc une victoire, on avait un super coup à jouer. Deuxième. Mais donc voilà, c'est ce que disait le coach la semaine dernière, tout est possible finalement dans ce championnat, et sans notre attaque phare, on voit que ça reste compliqué. On va parler des recrues après. Sur ce match, Laurent, tu étais au match contre Alès, oui. Difficile.
Qu'est-ce difficile, qu'on en dit oui et non, c'était équilibré, mais bon, on va pas se cacher, c'était pas le match du siècle. Une équipe d'Alès qui est bien regroupée en défense avec deux Golgoth, un stopper et libéraux. Et nous, bon, c'est vrai que, comme tu disais, on n'a pas nos trois attaquants stars dans l'équipe, donc ça manque un petit peu de percussion, même si nos petits jeunes se sont bien battus. Je tiens à le signaler, ils ont tout donné, mais bon, voilà, ça vaut pas Fadil et Dorian, notamment, ou Biram. Et donc, du coup, premier but d'Alès Gag, sur un coup franc, notre goal repousse du poing, mais dans le dos d'un défenseur, bim, ça rentre. On égalise tout de suite à la 6e, donc ce qui est très encourageant par Michael De Freitas sur un nouveau coup franc. Et puis est arrivé ce qui devait arriver en fin de match, une décision non prise par l'arbitre sur un petit fait de jeu à milieu de terrain et contre-attaque. La défense se revient héroïquement, corner, et on se prend un retourné que le joueur d'Alès remarquera certainement plus jamais de sa vie. Mais voilà, ça laisse de la frustration parce qu'au début de l'action, il y avait carrément une faute pour nous et puis surtout on perd un point, quoi. Voilà, c'est ça. Alors un point, c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup quand on voit le classement très serré de cette National 3.
Et d'ailleurs, le joueur qui fait le retourné, c'est celui que Johan Frébert nous avait parlé
la semaine dernière,
le fameux, ouais. Briasson, qui était à 7 et donc qui est allé à l'Est avec un contrat fédéral en poche.
Qui a été très bon d'ailleurs, tu m'as dit,
qui a
Laurent.
Été moyennement bon en première mi-temps. Mais très très bon en deuxième. Ouais, c'est un bon joueur. Là, ça fait une très belle recrue sur ce coup-là. Et puis, bon, en plus, il marque des buts magnifiques. Alors, bon. Voilà.
Voilà, qui était sur les tablettes de l'AFL, mais qui n'a pas pu se faire à cause de ses contrats fédéraux. Du coup, il y a quand même trois joueurs qui arrivent avec des jeunes joueurs en plus. Hein. De l'US Le Pontet, il y a un défenseur, Juliano Ramos, un attaquant, Ismail Ababou, et également un milieu terrain offensif de Montpellier-Arceau, Karim Belanda, trois jeunes joueurs. Patrick, tu en avais entendu parler de ces joueurs ou pas du tout? Non,
non,
on va les découvrir.
Avec Auré. Auré s'était lancé sur la piste, qui était le frère de cet international qui risquait de signer. Donc, en regardant la vidéo de Diallo à Toulon, il s'était rendu compte à juste titre que le frère de Guy Lavogui jouait avec la réserve de Toulon. Donc, il m'avait dit peut-être que c'est lui. Bon, c'est vrai. Bon, c'est pourquoi pas. C'est vrai que c'était tentant de faire ce rapprochement là.
J'ai encore des progrès à faire quand même. Hein.
Voilà. Bon, finalement, c'est Belanda. C'est Belanda. Bon, alors est-ce que c'est son frère ou son cousin? Là aussi, les avis divergent. On m'a tout dit dans les rues de Mende. C'est son frère, c'est son cousin. Bon, ok, il joue à Montpellier Arceau. Donc, bon, en tout cas, trois jeunes joueurs que je connaissais absolument pas. Il y a le défenseur qui joue au Ponte, mais au Ponte, il a fait très peu de temps. Il est surtout formé à Nîmes Olympique, donc c'est un ancien de Nîmes, Ramos, hein, je crois qu'il s'appelle. Donc voilà, il a fait toutes ses classes à Nîmes Olympique, donc on peut pas dire que c'est un joueur du Ponte. Si, il était au Ponte, mais en tout cas, c'est plutôt un joueur de Nîmes Olympique, quoi. Voilà.
Ok, bon, on verra ça.
A priori, les premières séances sont très bien déroulées la fin de semaine dernière. Il y a du bon potentiel à confirmer dès le week-end prochain. Alors malheureusement ou heureusement, l'extérieur à Canet, qui est une très bonne équipe de la poule, comme on l'a dit.
Voilà.
Du coup, je pense que notamment l'attaquant Ababou va vite chausser les crampons, puisque c'est vrai que on a beaucoup de blessés, de problèmes offensifs. Donc je pense que lui va être mis dans le bain très rapidement.
Alors peut-être pas dès ce week-end, parce qu'il y a un point de règlement qui dit que si tu n'étais pas qualifié au moment où le match aurait dû se dérouler, en principe, tu ne peux pas jouer ce match. Donc ça m'étonnerait, puisque c'est un match remis contre Canet, ça m'étonnerait que ces trois joueurs puissent évoluer contre Canet. Mais c'est la même chose pour Canet, puisque Canet aussi a pris des joueurs pendant le mercato. Donc s'ils ont signé après la première date fixée, ils ne pourront pas jouer aussi contre l'AFL. Mais a priori, je suis quasiment sûr que les trois recrues ne pourront pas jouer contre Canet.
Donc okay. ça veut dire qu'on va se déplacer à Canet encore en manque d'attaquants, c'est ça ?
Sauf si Fadil est rétabli. Dorian, a priori, quasiment pas, mais peut-être que Fadil sera remis, mais c'est pas sûr.
Ok. Classement, donc on le disait, c'est dommage, c'est 3 points perdus. Moi, je parle pas d'un point perdu parce que je pense que c'est 3 qu'on aurait dû marquer en recevant Alès, la réserve
coach,
de Toulouse.
Le coach la semaine dernière avait raison. On se projetait déjà sur le match à Canet, un zappant un peu ce match d'Alès, et il nous l'avait dit à juste titre qu'il fallait d'abord battre Alès pour penser après à Canet, et il avait raison.
Non, mais il y a quelque chose qu'on peut rajouter. Laurent le disait, il y avait énormément de jeunes qui étaient alignés au coup d'envoi. Et nous, les premiers, c'est vrai qu'on est contents, on est heureux de voir tous ces jeunes jouer en N3. Bon, contre Toulouse, ils ont fait un match vraiment splendide, on l'a dit. Mais moi aussi, j'entends des fois des discours de certaines personnes qui disent « Ouais, mais de toute façon, ouais, pourquoi aller recruter ? On peut jouer avec les jeunes, on peut jouer avec les jeunes. » Ben, ces gens-là, désolé de le dire, quoi, mais il leur manque un peu plus d'analyse. Tu ne peux pas faire une saison entière à 1-3 avec des jeunes qui vont être titulaires, je sais pas moi, sur 26 matchs, qui vont faire 20 ou 21 matchs. Voilà, c'est des jeunes, il faut qu'ils commencent. Il faut 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs titulaires. C'est déjà énorme, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Mais si tu comptes jouer le premier rôle avec une équipe de jeunes où tu vas aligner 5, 6 jeunes pendant 15, 16, 17 ou 18 ou 19 matchs, ben à mon avis, tu ne peux pas prétendre à jouer les 5 premières places. Alors c'est vrai que des fois, quand j'entends certains discours en disant « Ouais, mais on va chercher tout ça, tout ailleurs, on a des jeunes, on n'a qu'à les faire jouer. Ben » oui, mais si tu les fais jouer, à mon avis, c'est sûr de jouer la relégation si tu les considères comme des titulaires indiscutables.
Julien ?
Oui, juste par rapport à ce que dit Patrick sur les jeunes, mais il ne faut quand même pas oublier que les 3 qui arrivent sont quand même aussi très très jeunes, parce qu'il y a Ababou et Belanda, ce sont 2,98, c'est-à-dire qu'ils peuvent également jouer en U19, parce que ce sont des U20, donc ça place quand même la jeunesse des deux joueurs. Et Ramos est un 96, donc il n'est pas non plus très très vieux. Donc certes, c'est très bien d'avoir recruté, mais attention quand même à ce championnat CFA2 qui est compliqué. Et c'est vrai que des fois, des mecs d'expérience, c'est aussi très, très important à ce niveau-là. Mais je fais confiance quand même au club, c'est quand même Ramos et Ababou notamment qui jouaient déjà en CFA2 au Ponte. Et Belanda, à 19 ans, je pense que c'est plus un pari sur le long terme.
Sur l'avenir, ouais. Ouais.
Non, mais c'est vrai que Julien Thierry de nous dire, mais je ne pensais pas trop à ce mercato d'hiver, mais je pensais au mercato l'été, parce que ce discours-là, on l'entend dessus. Quoi.
Non, c'est sûr que là, sur cet hiver, c'est sûr que ça ressemble à des opportunités.
Exactement, tu as raison.
Et il fallait de toute façon compléter l'effectif pour l'étoffer, quoi, également pour la réserve aussi.
Après, c'est vrai qu'un bon Tony Vérel ou un bon Pouget de 40 balais, c'est pas mal. Hein. Ok, on en est où donc au classement ? Toulouse avec un match de plus, tous les autres ont un match de moins à 28 points. Nîmes 25, Perpignan, Canet 24, Montpellier 2, 23, Mende 22, et après Balma qui a 15 matchs aussi, qui a un match de plus, est à égalité de points avec Mende. Et on finit avec Fabregue qui est 7e avec aussi 15 matchs, donc un match de plus que Mende. Donc ouais, très dommage sur ce match-là, mais on voit, il y a des surprises partout. Ouais.
Après, si jamais Ils avaient la bonne idée d'aller gagner ce week-end à Canet. On serait qu'à 3 points quand même du leader Toulouse. Donc,
tout à fait.
Rien de fait. Et ça confirme ce qu'on disait la semaine dernière sur le fait que ce championnat est très très serré.
Si, si, on va pronostiquer sur le match, mais en fin de. Hein
en on pronostiquera. Oui, en fin de saison.
Avec plaisir.
Tout à l'heure. Quoi qu'on a regardé avec Aurélien, il n'y a pas de beau match ce week-end pour faire des pronostics. Hein.
C'est
nulle part.
Marseille, non, ça, non,
c'est naze.
C'est nul.
C'est nul.
C'est vendredi, ouais.
Mais
il reste des places d'ailleurs, messieurs.
Ouais. On va pas peut-être parier sur ça, ouais, Saint-Étienne-Marseille, ouais, ouais, pourquoi ouais, pas, allez. En plus.
Allez, de toute façon, c'est un Niçois qui propose Saint-Étienne-Marseille.
Ouais, c'est fou ça.
Surtout qu'à Lozère, il y a beaucoup de supporters marseillais et stéphanois. Oui. Donc c'est vrai que c'est un match sur lequel on peut parier à, sur 48 FM.
Il y a un supporter de Nice
qui est venu se perdre au milieu de tout ça. Ouais. Ouais, c'est moi.
La réserve est allée perdre à Metz 1-0. Hein, ça aussi.
Ça confirme. Ça aussi que ce championnat est très serré, puisque si on regarde avant le match, ben on était quatrième et Metz était avant-dernier. Mais il faut surtout regarder les points.
Et la fin du match.
Il faut pas
Metz est septième et voilà, la
fin cinquième. Il faut pas regarder les places parce que là, ben, ils reviennent 4-3 points de nous et en étant, il me semble qu'on est sixième ou septième après ce match.
Cinquième.
On est à la fois à 8 points du leader et à la fois à 8 points du dernier.
Donc, c'est ça. C'est ce qui s'appelle le milieu du classement.
Exactement. Voilà. C'est très très serré et ce sera compliqué jusqu'au bout, surtout sur hier où ça a été apparemment un match très très haché, où il y a eu beaucoup plus de duels que de jeux et on prend un but à la 92e quoi sur un coup franc. Le mec de Metz prolonge ça de la tête dans le but et c'est sûr que c'est un coup dur en vue du maintien.
Ils font des bonnes fins de match en ce moment, hein, puisqu'ils ont, ils ont marqué 3 buts en fin de match au stade Vélodrome.
Et là, il gagne 0. Elle est pas mal. Je m'attendais pas à celle-là, mais elle est pas mal.
Je m'attendais de savoir ce qu'il allait sortir parce qu'il a commencé sa phrase avec son petit sourire en coin de d'habitude.
Ouais, je croyais qu'il a parlé de moule ou d'huître, moi, tu vois. Non.
Ok. Mais juste pour finir sur.
Oui, redevient sérieux.
Sur ce classement, il y a Vandargue qui est avant-dernier avec 11 points. Mais ils ont 2 matchs de retard. C'est-à-dire que si jamais ils venaient à gagner ces 2 matchs en retard, ils reviendraient à égalité avec nous, quoi.
Aïe.
Donc, voilà, il faut vraiment regarder les points et pas les places, quoi.
Et puis dans cette poule, il y a Anduze qui va jouer contre la une de l'AFL,
un coup
de gare Lozère.
Ah, j'attendais le tirage.
Les retrouvailles avec coach Sora qui s'annonce.
Où ça? Anduze ou
Anduze qui s'annonce explosive.
On n'a pas encore la date parce que c'était prévu le 25 février, mais c'est jour de championnat, donc c'est un match qui sera reporté. Et...
Ok. Voilà.
Une semaine.
Certainement. Sympa, ouais.
Ça, le tirage a eu lieu jeudi dernier, le 1er février.
Je ne sais pas s'il était ravi, Stéphane Sora, de recevoir la une de l'AFL. Je ne suis pas sûr.
Ouais, je ne sais pas. Je ne l'ai pas eu depuis. Donc.
Tiens, mais tu parles de coupe. Allez, notre coupe préférée, la coupe Laura Foot. Avec Langogne qui sera opposé à Dervaux, club de Régional 3, en 16e de finale de cette coupe.
Ça peut passer.
Ça peut passer, c'est à domicile en plus. Le Buisson perd à Saint-Hilaire, 1-0. Première défaite de la saison de Marvejols Sport, 2-1 à Montrodin. Hein, faut le noter quand même.
Le derby.
Bonne nouvelle.
Le derby. Bonne nouvelle. Il y a eu que ce match en départemental 3.
Non, il n'y a pas eu que ce match. Il y en a 3 qui ont été reportés. Il y a Florac qui a battu 3-0 Margeride, mais Margeride qui vit une saison très compliquée. Ils se sont déplacés qu'à 8 à Florac. Donc,
C'est dur. Hein.
C'est presque un bon résultat de perdre que 3-0. Ouais,
peut-être
qu'ils
ont perdu 3-0 parce qu'ils ont arrêté à la demi-heure aussi.
Non, le match est allé au bout.
Tu prends un rouge, le match il s'arrête parce que c'est que 7.
À 7, tu peux pas jouer. Même s'il y a un blessé.
Bravo aux 8 courageux du club de Marjorie.
Ça rejoint ce que j'avais dit là quand on était allé la jouer là-bas, à Riotor, où je l'avais tiré un grand coup de chapeau parce que quand on y était allé, ils étaient que 11 et ils vivent une saison compliquée. Donc j'espère qu'ils vont se maintenir pour eux. Ensuite, le 2 du Buisson a battu Chirac 3-2. Le Valdo et Badarou ont fait 3 partout. Et donc, Monroda a battu Marvejols 2-1.
Oui, il y a eu pas mal de cartons, j'ai cru savoir.
Oui, 7 cartons jaunes et 1 carton rouge pour Badarou. C'était tendu.
C'était tendu.
Et après, 3 matchs reportés. Massegros, ENL, Aumont, Chastel et Saint-Georges, AFL. Mais du coup, hier, sans jouer, avec la défaite de Marvejols, on fait une bonne opération puisque on est leader.
Très bien, ça.
Voilà. Mmh. Avant le choc dans 2 semaines.
Contre
Marvejols.
Ah, super ça, on va voir.
À Marvejols.
Ouais. Allez, on fait une pause musicale, après on revient et on parlera. Aïe, on parlera du handball. Allez, à tout de suite.
Tu sais savais d'où je venais, tu me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin,
6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentants de la force publique. J'étais né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Soyez dans un flexitant de la volonté de l'autorité publique.
Les armes que tu as vendues chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Pour les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici, avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Tu as coupé chez moi. À pied, les armes que tu as vendues chez moi.
J'en oubliais les injonctions d'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça. Mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui. Directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée.
Tu viens me demander quoi?
Allez, on est de retour. Le handball, on vous disait, avec le MGC qui perd à Fontaine. 38 à 32, Fontaine qui était dernier du championnat et qui est toujours dernier d'ailleurs. Du coup, au classement, on va commencer de la fin. Les trois derniers descendent. Dernier, Fontaine 15 points, Saint-Égrève 18, Firmini 19. Et membre de premier non relégable à égalité avec Firmini, 19 points toujours. 8e Loriol, 20. 7e Grand Avignon, 21. 6e Annecy, 21. On va s'arrêter là. C'était un peu le match de la peur. Bon, il y a encore beaucoup de matchs. On n'est pas encore relégable, même si on s'y rapproche dangereusement. Par contre, contre le dernier, c'était le match à pas perdre et badaboum.
Oui. On n'est pas relégable parce que, comme tu le dis, on est ex aequo que Firmini, mais comme on a gagné ce match importantissime à Firmini, donc au goal average particulier, on est devant Firmini. Voilà la raison pour laquelle on n'est pas relégable. Mais bon, c'était la dernière journée des matchs allés, puisqu'on est à 11 matchs. Donc tu fais le bilan, 4 victoires, 7 défaites. Donc c'est forcément contrasté. Alors qu'on a, on avait super bien commencé, puisque je crois qu'on avait fait 3 victoires dans les 4 ou 5 premiers matchs. Donc c'est te dire que depuis, on a gagné que ce match à Firminy sur une série de 5 ou 6. Donc on est sur une spirale totalement négative. Et donc c'est vrai que c'est inquiétant. Et il y a un chiffre bon qui apparaît pas sur le classement, mais il suffit de regarder sur le site de la Fédé. On est la plus mauvaise défense des 12 équipes.
Donc, 351 buts encaissés.
351 buts en 11 matchs. Donc il est bien évident que c'est très compliqué de se maintenir quand tu présentes un tel déficit en défense. Mais ça, on le dit depuis le début de saison. Même quand on gagnait des matchs, on disait déjà qu'on prenait trop de buts.
38, là, c'est beaucoup, là.
Contre, on est la quatrième attaque.
Oui, non mais d'accord. Ouais. Donc c'est bien, heureusement. Parce heureusement. Que sinon, on serait encore plus dans les choux. Mais comme tu le dis, Ludo, prendre 38 buts contre le dernier qui, jusqu'à présent, n'avait gagné qu'un seul match, c'est sûr que c'est très compliqué de ramener une victoire.
D'accord, alors on est parti avec un seul goal, c'est ça?
Oui, on est parti avec qu'un seul goal, on gagne en roche. On regardait les stats à la feuille de match, Laurent, tu le disais, 4 arrêts sur le match. Bon, là aussi, dans mon compte rendu la semaine dernière, je l'ai dit, des fois il faut aussi un peu mettre les pieds dans le plat et dire les choses. On perd contre Ron Arieux à Ardèche, et bon, à la fin j'ai mis que les gardiens devaient être doit être plus décisif si on veut remonter si on veut remonter dans le haut du classement. Et ben là tu prends 38 buts, c'est un gardien qui est au niveau stat c'est annoncé sur la feuille de match 4 arrêts. Ben là aussi tu
contre 16 pour le gardien de Fontaine.
Voilà, mais tu mets
ça c'est 12 buts d'écart.
Comment on peut voilà,
ça c'est pas que le goal, c'est toute la défense.
Voilà, c'est un ensemble, comme on dit, la défense, mais bon, il y a aussi le gardien. Bon, moi je vais le dire aussi un peu comme ça. Moi, j'ai vu quelques matchs. Des fois, tu as un tir pas impossible, mais tu sens que l'équipe adverse prend un tir à l'arraché parce que le bras est levé, ou ils sont hors secteur, ou ils sont un peu. Et puis finalement, le ballon entre dans le but. Regarde la tête des défenseurs. Tu sens que ils baissent la tête, ou ils lèvent les bras, ou bon, donc tu commences un tout. C'est sûr qu'il faut bétonner la défense, mais des fois, si y a un tir un peu impossible et que le ballon rentre quand même, ça décourage aussi les défenseurs. Le hand, c'est pas moi qui vais taper dans le hand, mais il y a cette connexion entre le gardien et la défense. C'est primordial. Et il doit y avoir vraiment des liens vraiment. J'ai l'impression quand même que parfois il y a ce lien qui est un peu distendu entre les défenseurs et nos gardiens.
Ouais, alors il y a c'est sûr, marquer 32 buts à l'extérieur, c'est pas un exploit, mais c'est très compliqué à réaliser. Donc l'aspect offensif est quand même très encourageant, avec 12 buts à noter de Ravzan Letu sur ce match, 7 buts d'Erwan Pott, l'ailier gauche.
Il y a deux joueurs qui marquent donc, plus de la moitié des buts de l'équipe.
Qui ressortent en attaque. Par contre, il y a un autre point noir sur ce match, c'est quand même à nouveau un carton rouge d'un joueur qui revenait de 4 matchs de suspension et donc du coup c'est pas beau quoi. Il faut quand même garder ses nerfs. C'est qu'un sport, même s'il y a de l'enjeu, c'est un sport d'équipe. On peut pas lâcher les copains comme ça. Et je suis déçu, quoi. Je suis vraiment déçu qu'il y ait un nouveau joueur.
C'est Monsieur Carton qui nous dit ça, quoi.
Non mais Laurent,
Laurent
a raison, parce que le carton rouge, d'après ce qu'on a compris, avec rapport, parce que tu sais très bien que tu peux prendre un carton rouge sans rapport.
Accumulation de fautes.
Ça n'a aucune conséquence. Mais la carton rouge avec rapport, ça veut dire suspension de plusieurs matchs.
Et on a besoin de tout le monde.
Et on a besoin de tout le monde. Et c'est vrai qu'on sent de la frustration dans cette équipe, un manque de sérénité. Et la semaine précédente contre les Ardéchois, on a pris aussi deux. Moi j'en ai compté trois. Au moins 3 fois 2 minutes sur des contestations. Alors c'est vrai que des fois il y a des. Je suis le premier à le reconnaître. Ce match contre Ron Arieux, il y a eu des décisions arbitrales parfois qui te font bondir. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué après de toujours contester. Les conséquences sont lourdes après au niveau de l'équipe.
L'an dernier, il avait fallu un électrochoc, le retour de Pascal Daudet pour que l'équipe reparte du bon pied. Est-ce que l'entraîneur est en danger, clairement?
Il n'y a pas eu le retour de Pascal Daudet, puisque Pascal Daudet était, c'est pas la saison dernière.
C'était pas la saison dernière qu'il est revenu en cours de saison. Non, il y a deux ans, pardon. Voilà.
Non, Pascal Daudet, après, avait fait un tandem avec Maxime André, en cours de saison, et on avait vu que Maxime André avait pris de plus en plus d'importance, jusqu'à être presque le coach numéro un. En tout cas, c'est lui qui posait les temps morts, qui donnait les consignes d'équipe. En fin de saison, on avait assisté à ce scénario, là. Et donc, avec cette relégation arrachée lors du dernier match.
La dernière minute du dernier match.
Voilà. Et bon, tu poses une question, que en tant que journaliste, tu es tout à fait en droit de poser. C'est compliqué d'aborder un tel sujet maintenant comme ça en direct à l'antenne. Mais c'est vrai qu'on peut se poser tout un tas de questions. Et connaissant bien quand même les dirigeants, je pense qu'eux aussi sont en pleine réflexion. Ils doivent aussi se poser des questions. On est à la moitié de la saison, donc la situation. Bon, elle est comme elle est, donc je pense qu'il doit y avoir des réunions entre dirigeables pour savoir comment faire, en tout cas comment redonner un coup de boost à cette équipe.
Et moi, je vais défendre le coach sur
le début de saison.
On l'attaque pas, on se pose la question de savoir s'il est en danger ou pas.
Ouais. Pour moi, c'est aux joueurs à prendre conscience que le niveau National 3 demande des exigences.
Et ils le connaissent, ça fait 3 ans qu'ils y sont.
Ouais, mais ils le connaissent, mais est-ce qu'ils...
C'est pas nouveau pour eux, tu vois.
Est-ce qu'ils mettent le paquet? Ouais,
ça veut pas dire qu'ils font les efforts.
Voilà.
Oui, mais à ce moment-là, il faut se demander pourquoi ils font pas les efforts aussi. Julien.
Il faut, tu peux connaître un niveau et pas en avoir toutes les... Comment dirais-je? Intégrer toutes les composantes du truc, quoi. Tu peux... L'an dernier, c'est un sauvetage, un maintien miraculeux. Tu te maintiens à la fin. Là, après les 4-5 premières journées, comme disait Patrick, on s'est dit, bah tiens, il y a un bon départ, ça va le faire. Et puis on s'aperçoit que ça plonge, quoi. Donc il faut aller, moi je dis ça en tant que sportif amateur aussi, hein. Bien sûr que c'est des sacrifices des fois d'aller aux séances, des fois on préférerait être sur le canapé tranquille. Mais soit on décide de se sortir les doigts et d'aller chercher un maintien tous ensemble, soit on se dit, bon ben voilà, on s'entraîne une ou deux fois par semaine quand on en a envie, et puis advienne que pourra en fin de saison, quoi.
Non mais Julien a raison et je le rejoins tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on peut pas être sévère aujourd'hui, on est même dur. Mais bon, si on le fait, c'est parce que on sent quand même quelque chose. Et franchement, moi, ça me fout les boules. Ça me fout les boules parce que le MGC, quand même, il y a quand même une ambition. Il y a eu un recrutement à l'intersaison. Même s'il y a des joueurs qui sont partis, même si le gardien roumain qui est arrivé est reparti de suite. Et bon, c'est quand même, on se rend compte maintenant quand même que ça a été préjudiciable à l'ensemble de l'équipe. Mais bon, de voir cette équipe comme ça, moi, on m'a dit joueur contre Bourgouin. Ouais, mais Bourgouin, il ne te rend pas compte, c'est une équipe d'extraterrestres. Ok, c'est vrai, excellent joueur. Mais aujourd'hui, tu vois le résultat. Firmini, 30, Bourgouin, 29. Firmini, et nous, on a gagné à Firmini. Le MGC, il n'y a pas si longtemps avant la trêve, est allé gagner à Firmini. Donc là aussi, c'est possible. Même que tu reçois une équipe du haut tableau, tu peux les gagner. Firmini vient de le prouver. Donc. Franchement, moi, j'attends une énorme réaction du club et des joueurs. Hein. C'est vrai que Laurent, tu as raison. C'est aux joueurs, à mon avis, de se décarcasser. Quoi.
Oui, j'ai l'impression qu'on le dit chaque semaine, ça aussi, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Julien. Bon,
après, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme. On est qu'à mi-championnat, mais on s'était pas enflammé sur leur bon début de saison. On va pas non plus être catastrophé.
On est au mois de février. Il reste.
Ouais, mais on est moins. On est qu'à mi-championnat, donc ils sont pas non plus derniers, décrochés avec 12 000 points de retard. Mais c'est sûr qu'il doit de façon, il doit
la
avoir
dynamique
une,
n'est pas
avoir une prise de conscience. Ça, c'est évident.
Allez, ok.
Et un nouveau match capital samedi.
Oui.
Un déplacement à Lorient. Donc tu as dit le classement. Lorient, un point de plus que le MGC aujourd'hui.
Allez, c'est le match à gagner pour nous faire.
Si tu gagnes, tu leur passes devant.
Ouais. Parfait.
Du coup, là, c'est les matchs retour.
Oui.
On avait fait quoi là,
on les avait battus. Premier match à domicile. Ah, bon. On les avait gagnés.
On les avait largement gagnés, oui. et avec une belle victoire, quoi.
Ouais, un joli match, c'est pour ça. Voilà. On voit le potentiel de cette équipe. C'est ça pour ça que aujourd'hui, je suis un peu sévère, mais parce que ça me fait râler, parce que le MGC doit proposer autre chose que ce qu'il propose maintenant depuis plusieurs semaines.
Quelqu'un, le résultat de la réserve à Bagnols?
Il n'y avait pas de match.
Ils ont perdu.
Non, ils n'ont pas joué.
Pas de résultat. D'accord.
Par contre, j'ai le résultat de
la féminine.
Défaite de Nord-Lozère.
Oui, mais avant, il y a les féminines qui jouaient à Bouillargues et qui ont perdu 33-23. Ouais. Nord-Lozère, oui.
Nord-Lozère, on avait oublié de le dire la semaine dernière. Et donc, cette semaine, on ne va pas les zapper une deuxième fois.
J'ai les résultats.
Malheureusement, une défaite a annoncé contre Saint-Flour, 27-15, il me semble.
28-15.
Ouais. Contre une très belle équipe de Saint-Flour, d'après Flo.
D'accord, mais les départementales ont gagné 21-13 à Mauriac et les garçons ont gagné 28-27 également à Mauriac. Donc, 2 victoires sur les 3 matchs. Basket, pour ceux qui ont réussi à rentrer dans le gymnase de Chaptal, victoire contre Olemps 57-52. Beau match, oh, c'était tendu, Auré.
C'était très tendu, effectivement.
Alors vas-y.
On voit effectivement, comme je le disais la semaine dernière, qu'on rentre sur des oppositions un peu plus difficiles que celles qu'on a connues jusqu'à maintenant. Puisque là, je crois qu'on signe notre 6e victoire d'affilée. Les 5 précédentes, on les avait gagnées au minimum d'une 20aine de points d'écart. Donc là, c'est vrai qu'on attaque une victoire contre Olemps qui était 3e du classement juste avant ce match. Et on voit que c'est un petit peu plus compliqué et ça, c'est pas plus mal non plus. Ça nous permet de bien préparer les matchs suivants.
Oui, mais victoire quand même au bout, même si c'est compliqué.
Ah oui, très content de la victoire. Je pense qu'on s'est rendu la tâche un petit peu difficile tout seul. On parlait du comportement des joueurs de hand. Je pourrais dire un petit peu la même chose des joueurs de basket. Puisque voilà, dès qu'on voit que c'est un petit peu serré, on commence à s'énerver, on commence à critiquer l'arbitrage. On se sort tout seul du match. Et c'est vrai que voilà, c'est un match qu'on aurait pu perdre, surtout à cause de nous.
Ouais, d'ailleurs, j'ai assisté à une scène surréaliste d'un de vos joueurs qui parlait à Valérie, qui vous avait arbitré, en expliquant toutes les fautes qu'aurait fait l'arbitre pendant ce match. J'ai dit, tiens, tu devrais plutôt arrêter de râler parce qu'il paraît que tu râles beaucoup en match. Je ne dirai pas qui est ce joueur.
Tu me diras hors antenne alors.
Je te dirai hors antenne.
Non, mais sinon, mais.
Et du coup, ouais, c'était un prétendant, Olemps à la montée, comme vous, hein.
C'était je sais pas si c'était un prétendant parce qu'ils sont quand même un petit peu décrochés au niveau du classement, mais c'est vrai qu'on avait gagné le match aller déjà par 5 points d'écart juste. J'espérais qu'à domicile ça serait un peu plus tranquille. Voilà, ça avait pas été le cas. Bon, on peut dire que il y avait quand même des absents, et puisqu'il y avait notre meilleur scoreur Axel d'habitude qui est blessé. Messout aussi, dont parlait Laurent la dernière fois, qui n'était pas là non plus, et Thomas, notre capitaine, qui est également blessé. Donc c'est vrai, voilà, c'est trois personnes qui sont,
ça fait beaucoup,
ouais, c'est trois personnes qui d'habitude sont dans le 5 majeur. Donc c'est vrai, voilà, il a fallu faire quelques ajustements, mais on s'en est sorti. La victoire est là, c'était l'objectif, et il faut pas banaliser la victoire, et c'est quand même bien.
Super, prochain match.
Alors, pas ce vendredi, puisque ce vendredi il y a une journée de championnat, mais on est exempt. Et donc c'est dans vendredi d'après, dans une grosse dizaine de jours, contre le premier, contre Druel.
Où ça?
Voilà, la réserve de Druel à domicile, Amanda.
Oh là là, grand match.
Il est modeste parce qu'il dit le premier, mais il pourrait dire le premier ex-aequo, puisque virtuellement, le BCM est ex-aequo avec cette équipe de Druel, puisque les deux seuls clubs qui n'ont que 2 défaites, c'est Druel et le BCM. Donc là, c'est le vrai choc au sommet, déterminant.
Une équipe aura 3 défaites la semaine
prochaine. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas. C'est... Après, bien sûr, il y aura encore des matchs, mais c'est quand même un pas énorme en vue d'une éventuelle montée en division supérieure, puisqu'on le rappelle, les deux premiers vont accéder. Donc, quand les deux premiers se rencontrent, si tu gagnes, donc forcément, tu augmentes considérablement tes chances.
À moins que Druel ne gagne pas ce week-end.
Druel joue, nous on est exam, mais Druel joue vendredi, ils reçoivent Alba 4.
Et vous avez un nouveau. Et match en retard, alors. Et le match en retard qui s'est pas joué, la date est connue ou pas?
Non, pas encore.
Pas encore, d'accord.
Druel, c'est béton, attention. Allez, on en a fini, c'est beau. Ah si, le 32e trèfle Lozérien MV, 320 places attribuées comme d'habitude en moins de 4 minutes.
Voilà.
Alors là, il reste 3 places VIP à gagner, il faut vous rendre sur la page Facebook, vous avez jusqu'à mercredi 20h, il y aura 3 gagnants par tirage au sort aléatoire pendant les 4 jours du jeu parce que ça a débuté hier. Allez, on passe à notre actualité nationale, internationale. Avant, on va faire nos petits pronostics. Vu que maintenant, grâce à une bonne idée du coach Yohann Febrer, on va parier sur l'AFL. Un match très compliqué à parier, vu que l'AFL va jouer chez Perpignan-Canet, deuxième. Canet qui est troisième. Troisième avec 24 points, membre de cinquième, 22 points, et tous les deux, 14 matchs. Vu que tu es sur ta bonne lignée, Laurent, mais c'est toi qui vas commencer par parier.
Alors, à Canet, victoire 1-0 de l'AFL.
Tu as l'air sûr de toi.
Ouais.
J'aime quand il est comme ça,
avec un, but de Benjamin Almeiras.
Ok.
Voilà.
Donc il faudrait, défenseur. Qui ferait son retour en équipe première, puisqu'il a joué en réserve ce week-end.
Ah, il a des infos, Lolo.
À Metz.
T'as des infos, là?
Non, mais je sais. Ils vont si le coach nous écoute aujourd'hui, je sais qu'ils vont travailler les coups de pied arrêtés cette semaine.
Et comme ça, si ça a été un véritable. Si le coach de Canet t'écoute, il va bien.
Non, écoute pas celui de Canet. Et, puisque ça a été quand même laborieux ce week-end contre Alès. Et je vois bien Benjamin aller venir claquer une bonne tête.
Très bien, on va passer direct à Patrick parce qu'il a 4 points, on sait.
2-1 pour l'AFL.
Très bien, je sens que je vais marquer des points, moi. Vas-y, Auré, avec un point imaginaire, mais un point quand même.
Non, d'ailleurs, je l'ai marqué sur... j'avais pronostiqué une défaite de Montpellier.
Oui, voilà, c'est ça,
Montpellier par 4-0.
Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu ne te souviens plus, 4-0.
Ok, vas-y.
Moi, je dis victoire de Canet, 2-0.
C'est pas beau, hein?
Mais si, c'est.
Pourquoi non, mais c'est le pari, t'es pas obligé de.
Tu vois,
l'influence pas.
Mais quand il est comme ça, il a souvent raison. Tu vois non, mais c'est vrai, c'est comme contre Montpellier-Paris. En plus, c'est ce que j'allais dire, tiens. Julien.
Et moi, je vais dire un partout.
Un partout.
Ouais.
Ok, je savais qu'il allait dire un match nul. Ouais. Ok, moi, je vais dire un 0-0. Voilà.
Un catenaccio italien.
Exactement, on y va pour prendre un point, on les prendra.
Ouais. Non, on y va pour gagner. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Monsieur.
On y va pour ça gagner, dépend. Mais c'est vrai qu'un match nul,
on, ah bon, on le prendra. Ah,
0-0 à Canet, c'est bien. Hein.
Pour récupérer ses points perdus contre Alès.
Alors, la Ligue 1, les matchs sont un peu pourris ce week-end, hein, donc on va choisir un match, le meilleur des matchs pourris. On va choisir Saint-Etienne qui reçoit l'OM vendredi soir, et on va continuer dans le même sens. Il n'y a pas de raison.
Alors, à Saint-Etienne, donc victoire de l'OM, 2-0.
Ok, c'est bien. Patrick.
Comme pour l'AFL, moi je dirais 2-1, bien sûr pour Marseille.
Ok. Auré.
Moi je vais dire 2-2.
Très bien. Julien.
Je vais dire 2-1 pour Marseille.
Ok.
Ouais.
Bon, je vais dire 3-0 pour Marseille.
Ouais.
Écoute, ils en ont marqué 6 contre Metz.
Sur 3-0, j'ai une anecdote que je peux raconter. Il y a quelques années, Gignac était toujours à Marseille. Donc, je fais le déplacement pour voir Saint-Étienne Marseille. Dans le bus des Verts de la Margeride, l'incroyable association basée à Grand-Rieu, et donc qui regroupe tous les supporters de Saint-Étienne. Ils vont à Geoffroy Richard quasiment toutes les semaines. Et donc, ils font un bus. Et donc là, j'étais l'intrus. Supporters de l'OM au milieu des Stéphanois, et donc pour financer leurs superbes actions tout au long de la saison, ils font pendant le trajet aller une tombola où tu pronostiques et tu donnes 2 euros et tu pronostiques le résultat final.
Je crois que tu nous l'as déjà raconté celle-là. Et donc tu redotes. Hein.
Non, voilà. Vas-y.
Non mais et alors bien sûr donc je continue donc.
Pourtant,
bien sûr tout le monde pronostique victoire de Saint-Étienne et donc le seul qui a pronostiqué la victoire de Marseille. C'était moi et j'ai pronostiqué 0-3. Et finalement, Gignac marque 2 buts et le score final, c'est 0-3 pour Marseille. Et donc, j'étais bien sûr tout content. Et dans le bus retour, c'était il n'y avait pas un mot. J'étais le seul à me réjouir. Et donc, j'avais gagné 2 autres places pour le match suivant. C'était Saint-Etienne-Toulouse. Et donc, j'étais allé une deuxième fois à Geoffroy Guichard. Donc, 0-3. Un 0-3 est possible puisque c'est déjà arrivé. C'est là où je voulais en venir.
Et ouais,
surtout que Mitroglou commence à marquer.
Pas, sauf que Gignac marquera pas un doublé.
Non, ça c'est sûr.
Tu n'es pas le seul intrus dans cette association puisque mon père en fait partie.
Ah, d'accord.
Et il est lui aussi supporter de l'Olympique de Marseille, donc il sera bien embêté dès ce week-end.
C'est ça, parce que maintenant que tu viens de le dire,
oui,
à la radio.
Non, mais je pense que ses collègues de l'association le savent. Il encourage Saint-Etienne. Lors de tous les autres matchs, mais d'accord, pas celui-là. Hein.
Et je fais un clin d'œil à mon copain Jean-Paul qui habite à Badarou et qui est un pilier de cette association et un supporter inconditionnel des Verts.
Cabella a le droit de jouer, non?
Et qui trouvera le Cabella, retour
non.
Très long.
Non. Cabella non, parce que sur les 2 matchs, c'est marqué dans son contrat, il ne peut pas jouer contre
c'est
Marseille.
On aurait aimé justement qu'il joue.
Ben oui, c'est oui.
Le niveau qu'il propose actuellement.
Ouais. Ouais, il a marqué quand même.
C'est clair.
Oui, mais bon, c'est pas.
Ils ont fait quoi là, Saint-Etienne?
Ils ont gagné 2-0
contre Amiens.
Amiens, ouais.
2-0
Debuchy et
Cabrera. À l'extérieur en plus. Ouais. Oula, je prends des risques, moi. Debuchy. Ouais. Ok. L'Irlande, la France, le rugby et défaite au final. Ça fait mal, 15 voilà. à 13. Ça voilà. fait mal.
Tu as tout résumé.
J'ai tout résumé.
Ouais, fait ouais. Une défaite plus honorante qu'honorifique plutôt contre. Que cette dernière année, cette dernière année plutôt.
On a eu une équipe qui s'est battue quand même, contrairement à ce qu'on pouvait voir depuis quelques temps. Et, bon, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Même moi, devant la télé, j'étais. Bon, c'est vrai que tu prends un coup de masse derrière la tête. Et 41 phases de jeu, plus de 3 minutes ou 4 minutes de temps de jeu, puis un drop de 42 mètres ou 43 mètres. Bon, c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon. On va voir dimanche Écosse-France à 16h.
C'est la classe Sexton ouais, qui nous a claqué le drop de la gagne. C'est quand même un geste de grande classe. Hein.
Oui, tout à fait.
Laurent a quelque chose à dire sur Sexton.
Je trouve que c'est un très bon joueur qui a tiré un bon coup à la fin, à la 83e
minute. Il est plein de forme.
Malgré sa crampe, il est en pleine forme. Ouais. Ouais.
Sinon, moi je voudrais rajouter un truc. Hein. Je vous trouve un petit peu gentil quand même avec cette équipe de Français parce que durant tout le match, on a quand même rien proposé. Alors vous allez peut-être me dire que la satisfaction c'est la défense. C'est quand même un mauvais signe quand la satisfaction c'est ta défense, que t'as pas touché un ballon de tout le match et que tu te contentes de ça. C'est vrai qu'on n'a pas proposé grand-chose, hormis un essai de Teddy Thomas qui tient un petit peu du miracle. Voilà, moi je trouve que si la France avait gagné, ça aurait été un petit peu un hold-up et ça aurait surtout caché, ça aurait été l'arbre qui cache la forêt et ça on aurait un petit peu mis tous les problèmes sous le tapis et je pense peut-être que c'est pas plus mal du coup, on va pouvoir se retrousser les manches un petit peu.
Exactement Aurélien, quand on voit le jeu proposé par l'équipe d'Angleterre, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est quand même autre chose.
On parle d'état d'esprit depuis le début de cette émission, mais au moins on a retrouvé un état d'esprit plus conforme à ce que doit proposer une équipe de France, en particulier au rugby. Après il est bien évident que tu ne peux pas proposer le jeu des Irlandais qui jouent ensemble depuis X temps, avec un talonneur qui a plus de 100 sélections, bon, un Sexton qui a 80, et 4 ou 5 autres joueurs qui ont 70 ou 80 sélections en équipe d'Irlande. Et bon, c'est vrai que nous, on a des joueurs à 5, 10, 15, à part Guirado, maximum c'est 20 ou 30. Donc c'est vrai que tu ne peux pas proposer le même jeu huilé au niveau des combinaisons, etc. Mais au moins, l'état d'esprit était là et c'est quand même un progrès par rapport à ce qu'on a vu sous l'ère Noves.
Et on peut dire, mais tu parles de Noves justement, pendant ces 2 ans de règne, il avait été un petit peu victime des blessures des joueurs. Et malheureusement, on voit que ça continue. Là, la Skoumou ne nous lâche pas, avec trois blessés encore sur cette partie. Donc, notamment, le petit Dupont numéro 9, qui moi je trouve le quart d'heure pendant lequel il était sur le terrain, mais ça change carrément le visage de l'équipe de France et on voit que l'essai ça part de lui. Et le petit numéro 10 Jalibert aussi qui faisait ses grands débuts dans le tournoi dont on disait le plus gramming. Donc, c'est vrai encore, c'est pas fait pour aider le staff de l'équipe de France et tout ça.
Mais le rugby est un sport où il y aura de plus en plus de blessés et c'est pas propre à l'équipe de France puisque le demi de mêlée de l'équipe d'Angleterre au bout de 10 minutes, c'est certainement fait les mêmes croisés que Dupont. Donc on se rend compte que le rugby a énormément de casse à tous les niveaux. On parle beaucoup des commotions à juste titre, mais il n'y a pas que les commotions. Il y a beaucoup de croisés qui touchent les joueurs de rugby.
Laurent, tu voulais dire un mot?
Ouais, non, je voulais juste dire que ce qui est encourageant parce que pénalité de 40 mètres près en gagné, mais c'est surtout l'adversaire, l'Irlande, qui avait gagné tous ses matchs contre les équipes de l'hémisphère sud, je crois, cet hiver. Là où nous, on a pris que des tannés. Donc, finalement, c'est décevant. Hein, moi, je ne suis jamais rentré sur un terrain pour perdre et satisfaire d'une défaite, mais quand même, c'est bien mieux que ce qu'on aurait pu avoir.
Ben, je peux te dire, faire 41 phases sans faire d'en avant, alors que tu sais que la sirène est passée, que tu perds, et que donc si tu lâches le ballon...
Que le ballon le match, est glissant parce
voilà,
qu'il pleuvait.
Il pleuvait, que le match est terminé, c'est une maîtrise, il faut rendre hommage. Ouais. C'est vrai, à cette science irlandaise, en plus Sexton, 10 ou 15 phases avant, il joue au pied. Donc il balance le ballon au pied à son ailier. Si c'est trop haut ou trop court, ou si l'ailier fait un en avant, le match est terminé. Et donc c'est ça aussi qui lui a permis de gagner 25 ou 30 mètres sur le coup. Et donc après de se retrouver en position où il peut tenter le drop. Donc c'est vrai qu'il y a eu une fin de match avec une maîtrise irlandaise impressionnante et il faut le souligner.
Mais sur toute cette dernière action, tu vois toute la classe de Sexton au pied, puisque sur la remise en jeu, il met un ballon millimétré pour ses coéquipiers, les Irlandais récupèrent le ballon. Mmh. Donc après plusieurs phases de jeu, il renverse le jeu, là aussi comme tu dis, sur un coup de pied vers son ailier. Et c'est risqué aussi, comme tu dis, parce que au bord de touche, si l'ailier se fait sortir ou quoi que ce soit, ou s'il arrive pas à rattraper le ballon, le match est fini. Pareil, il lui met dans les bras, et après il claque le drop de la gagne, vraiment. Ah, il a tout juste sur ses 5 dernières minutes.
Alors qu'il était à terre en quelques instants avant, où il avait des crampes, et donc il était obligé de tirer son mollet.
Enfin, Cyril Jeunechamp ou un Bernard Cazoni, t'as pas que 49 phases, hein. Ça s'arrête avant, je préfère te le dire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour la 100e avec tous nos chroniqueurs, et peut-être que nos chroniqueurs, parce qu'on s'en est pas occupé, mais il y aura du champagne, Patrick, pour toi.
C'est génial.
On fêtera mon premier point.
Donc moi,
grâce au Catenaccio de Johan Febraire.
Je fêterai ma 90e, puisque je n'ai raté que 10 émissions.
Oui, et ouais, Julien, il fête sa 20e, comme son âge. Et ça, c'est beau.
Ciao, comme les gars. Comme le nombre de buts qu'il a marqué en une saison.
C'est ça. Cette saison. Et comme le nombre de cartons qu'il a reçu en 4 matchs. Laurent.
Ouais, voilà.
C'est ça. Ciao, les gars.
Au revoir.
Allez, salut.
Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie. C'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Mr. Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tapis apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du tapis apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.